Voilà, vous avez été très sage pendant tout le week-end et c'était encore vraiment un privilège et une bénédiction d'être avec vous. Alors nous allons encore reprendre 1 Pierre. On va faire une dernière lecture. Avec ceci, on aura fait le tour du premier chapitre. 1 Pierre, versets 6 à 12. Chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Alors ce week-end, nous essayons de faire ce que les anges souhaitent faire, désirent faire, c'est-à-dire plonger nos regards dans les choses de l'Évangile, dans l'histoire de l'Évangile. Et on dit que l'Évangile, oui, c'est la puissance de Dieu. L'Évangile, en fait, ce n'est pas des cours de base qu'on va valider pour ensuite passer à des études supérieures dans la vie chrétienne. Non, l'Évangile est là pour toute notre vie chrétienne. Ce n'est pas le B.A.B.A. de la vie chrétienne, c'est le A.A.A.Z., l'ensemble. Et nous avons vu comment l'Évangile nous convertit, comment l'Évangile nous sanctifie, tout à l'heure comment l'Évangile nous unit. Et maintenant, comment l'Évangile nous fortifie dans nos épreuves. Comment l'Évangile parle à nos épreuves et à nos souffrances. Et là, on arrive peut-être au but primaire de cet épître, puisque Pierre écrit à ces chrétiens qui sont éprouvés. Et pour les aider, il va leur rappeler le contenu, le message de l'Évangile. Ce message qu'ils ont cru pour être sauvés, ça va être encore le message qui peut les aider dans leur situation. Alors, nous voici devant la question des épreuves et de la souffrance. Et il faut savoir que cette question n'est facile pour personne, ni pour les chrétiens, ni pour les non-chrétiens. Mais je me dis que la valeur d'une religion, la valeur d'une croyance, peut-être se mesure dans ce qu'elle peut nous apporter au moment difficile. Et il va encore évoquer la mort et la résurrection de Jésus-Christ ici, et nous croyons que justement cette mort et cette résurrection nous offrent des ressources très puissantes pour nous permettre de traverser les épreuves, en tout cas sans perdre pied. Alors voyons ce matin comment le message de la croix peut nous aider dans les épreuves. Et nous allons voir que la croix nous apprend que les épreuves arrivent à tout le monde même. La croix nous apprend qu'elles ont une fin, et la croix nous apprend qu'elles auront une fin. Donc, les épreuves et les souffrances, la croix nous apprend qu'elles arrivent, elles arrivent à tout le monde, qu'elles ont une fin et qu'elles auront une fin. Tout d'abord, quand on considère l'Évangile, l'histoire de l'Évangile et la croix, eh bien, ça nous apprend, obligé de constater, que les épreuves arrivent, et elles arrivent à tout le monde. Pierre dit même ici, puisqu'il le faut. Maintenant, vous êtes, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Apparemment, il le faut. Mais c'est vrai que dans un monde où les cœurs humains, les corps humains sont remplis de corruption, de souillure, de flétrissement, il dit il ne faut pas s'étonner que les épreuves et les souffrances arrivent. Plus tard dans l'épître, il va dire, mais bien-aimés, ne soyez pas surpris, ne trouvez pas étrange de se trouver dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Je pense que d'autres cultures, dans d'autres régions du monde, peut-être ils sont moins surprises, moins choqués, étonnés par la réalité des épreuves et des souffrances. Mais en Occident, on va dire, on est un peu en retard par rapport à ça. Quand l'épreuve arrive, quand la souffrance arrive, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Donc on cherche rapidement quelqu'un à blâmer. Ou bien on cherche un traitement, un médicament qui enlève de suite. On cherche une solution gratuite payée par les assurances. Parce que chaque fois, la souffrance semble surprenante. Et même parmi les chrétiens, je pense, il y a une surprise, il y a un étonnement à chaque fois que la souffrance est là, il y a une incompréhension. Et je pense que c'est parce que parfois on a oublié l'Évangile. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà comment on réfléchit. C'est le cœur humain qui réfléchit comme ça. Et on se dit, voilà, moi, chrétien, je lis ma Bible, je vais à l'église. Je suis une bonne personne, je suis un bon chrétien. Et je vois autour de moi les personnes à côté de moi qui finalement, c'est moins avancé, moins bien. Et pourtant, pour cette personne, tout se passe bien. Et pour moi, je souffre. Et ça, c'est pas normal, c'est étrange. Moi qui fais bien comme il faut, je souffre, l'autre personne, je vois, il ne fait pas bien comme il faut et tout se passe bien. Pourquoi nous réfléchissons ainsi? Et c'est parce que nous avons oublié l'Évangile et nous avons oublié que justement Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et il se révèle dans l'Évangile, il dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu ne nous doit pas un bonus parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est justement, c'est la religion qui fonctionne comme ça et l'Évangile fonctionne à l'envers. Dans les religions païennes, qu'est-ce qu'on fait? On paie les dieux en quelque sorte par un sacrifice, par une piété, par une fidélité, et puis on s'attend que ce qu'ils doivent arranger notre vie. C'est comme ça que beaucoup de religions fonctionnent. Voilà, on fait notre part, le dieu doit faire sa part. Et donc il faut l'apaiser, il faut le rembourser, il faut le payer, et il doit une certaine protection, une certaine bénédiction dans notre vie. Et puis on dit, voilà, j'ai payé ma cotisation, pourquoi je ne touche pas les avantages? Et on glisse souvent dans cette pensée, si je suis bon chrétien, si je fais tout ce comme il faut, j'aurai moins d'épreuves. C'est avec Dieu, c'est donnant-donnant. Mais non, l'Évangile, ce n'est pas comme ça. Et il y aura maintes raisons à rejeter ce raisonnement, mais celle que je trouve la plus forte, celui que je trouve le plus fort, la plus accessible à chacun de nous, c'est de penser à l'histoire de Jésus. Pensez à l'histoire de Jésus, pensez à l'histoire de l'Évangile, la croix. En Christ, vous avez la personne la plus juste, la plus parfaite, la plus innocente, la plus sainte, la plus obéissante, la plus aimée de son Père, et il a eu une vie nulle, il a une pourrie, il a dégusté en tant que souffrance. Il a souffert plus que tout. Alors le cas de Jésus, plus que tout, détruit la théorie que les souffrances arrivent directement à cause de notre immaturité ou notre péché. Alors bien sûr, il peut être intéressant de s'interroger, est-ce que Dieu place cette épreuve, cette souffrance dans ma vie pour me châtier, en conséquence d'une mauvaise direction que je suis en train de prendre? Ce cas existe, mais ce n'est pas vraiment la préoccupation de Pierre dans cette épître. Dans toute cette épître, Pierre il parle à des chrétiens éprouvés, mais à aucun moment il les reproche, à aucun moment il les charge de culpabilité, à aucun moment il leur reproche un manque de foi, un manque d'obéissance, un manque de sagesse, à aucun moment il les traite de sous-chrétiens parce qu'ils sont éprouvés. Alors que nous, s'il faut dire, c'est souvent la première chose qui traverse notre esprit. On voit quelqu'un éprouvé ou nous-mêmes le sommes et on dit, ah, Dieu n'est peut-être pas content avec cette personne. Il y a certainement quelque chose chez elle qui déplaît à Dieu ou qui fait que Dieu retienne sa bénédiction. Mais si on revient à Jésus-Christ, si on revient à ses souffrances, ben, c'est la preuve que cela arrive à tout le monde, y compris les plus innocents. Peut-être que vous avez entendu parler de cette missionnaire qui est partie en Amérique du Sud, Elizabeth Elliot. C'est un missionnaire, après un écrivain. Elle a écrit beaucoup de livres, plusieurs traduits en français. Elle a écrit très bien. Donc beaucoup de ses livres étaient des livres d'exhortation, tout ça. Mais elle a écrit dans sa vie un roman chrétien, on va dire. Et le titre de ce roman, de ce livre, c'est intitulé « Point d'image taillée ». S'inspirant des 10 commandements, tu ne te feras point d'image taillée. Donc, le nom du livre, c'est « Point d'image taillée ». Et puis, c'est un roman, c'est une histoire qu'elle invente, d'une missionnaire, une fille qui part dans une grande consécration, une grande obéissance. Elle part dans une tribu reculée. Et voilà, elle consacre sa vie à ça, beaucoup de dévouement, d'attachement à Dieu. Et puis elle arrive dans cette tribu, elle commence à traduire la Bible. Ça avance bien, elle fait même, elle a un contact, un homme de la tribu, et il semble que la clé se trouve dans cet homme, parce que lui commence à s'ouvrir à son message, à l'évangile, et il peut l'aider dans la traduction. Il faut toujours un contact clé, et voilà, et elle a cet homme qui est son contact clé. Et puis un jour, cet homme tombe malade, et donc elle va lui administrer un médicament. Mais en fait, par accident, elle administre une dose mortelle à cet homme, et il en meurt. Et là, vous pouvez imaginer la catastrophe, parce que missionnaire devenue meurtrière presque, et puis toute la tribu se tourne contre elle. Elle qui était censée apporter la vie, elle apporte la mort, et tout son travail est chamboulé, toute sa vie, hein, que son projet s'écroule. Et puis le livre termine ainsi, avec notamment les pages de sa traduction, les pages de la Bible qui sont emportées par le fleuve. Et ça c'est l'histoire, ça c'est le roman. Et apparemment, le livre a connu une très forte réaction, même parmi les chrétiens, et un peu choquant, un peu surprenant. Mais ils ont dit, mais non, ça ne peut pas être comme ça. Notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas ça, il ne permet pas de ce genre de choses. Pour quelqu'un qui est dévoué comme ça, quelqu'un qui est obéissant comme ça, quelqu'un qui est consacré comme ça, non, Dieu ne fait pas ça. C'est impossible, et ce n'est pas bien de parler comme ça. La chose, si vous connaissez Elizabeth Elliot, c'est un peu l'histoire de sa vie. Sauf que ce n'est pas les pages d'une Bible qui était emportée par le fleuve, c'était son mari qui était tué par la tribu. Et elle a vécu ça sans savoir à ce moment. Bien sûr, elle ne pouvait pas connaître la suite, qui est devenue bien sûr un grand succès missionnaire, mais elle ne pouvait pas connaître la suite. Elle a vécu ce que cette personne fictive a vécu, malgré un grand dévouement, une grande consécration. Voilà ce qui arrive. Et elle dit, en fait, l'idée dans son histoire, dans son livre, elle dit, si vous avez un Dieu qui ne peut pas agir comme ça, si vous avez un Dieu qui ne fait pas ça, eh bien, vous avez une image taillée. Vous avez une image taillée, vous avez une fausse représentation de Dieu, vous avez une idole païenne qui, donnant, doit bénir en fonction de notre vie. Parce que, vous savez, le jour de la crucifixion, c'est aussi ce qu'on aurait dit. Si on était là, on aurait dit, mais non, Dieu ne peut pas faire comme ça, mais non, mais ce n'est pas possible. Cette obéissance, cette sainteté, cette pureté, cette innocence, c'est ainsi qu'il est récompensé. Moi, non, Dieu ne peut pas faire comme ça, Dieu n'est pas comme ça. Mais si les épreuves, la souffrance arrivent. Et déjà, la croix nous apprend nous apprend ça, à ne pas être surpris. Mais ensuite, la croix nous apprend que les souffrances ont une fin. Et quand je dis une fin, je parle d'un but. Une fin, un but. Parce que de suite, dans l'épreuve, dans la souffrance, il y a la question du pourquoi. C'est inévitable, la question du pourquoi. Et la croix nous dit, quand on y pense, la croix nous dit que non seulement les souffrances vont arriver, mais la croix nous aide à savoir un peu pourquoi. Bien sûr, le pourquoi précis, probablement le pourquoi précis d'une telle épreuve, une telle grande épreuve, une telle grande souffrance que vous pouvez traverser, vous risquez de ne pas avoir la réponse précise au pourquoi dans cette vie. On n'en voit pas toujours, il y a ce verset en 2 Corinthiens, Paul parle de ses épreuves, ses souffrances, et il dit, selon une traduction, il dit « Nous sommes dans la perplexité, mais non pas sans ressources. » Nous sommes dans la perplexité, mais non pas sans ressources. Et ça, c'est sûr, quand on traverse les épreuves et les souffrances, on sera dans la perplexité et la tristesse, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sans ressources. Et les ressources puissantes que nous avons, c'est notamment dans la croix et dans l'Évangile. Pourquoi je dis ça? Parce que la croix nous apprend que les souffrances, elles ont une fin, elles ont un but. Alors nous, on pose la question pourquoi? Pourquoi? Vous allez voir que la croix nous permet déjà de savoir ce que la réponse n'est pas. Et ensuite, la croix nous permet d'avoir un début de réponse. Donc on va voir un peu ces deux choses. La croix nous dit déjà ce que la réponse n'est pas, ce qui est rassurant, et puis même elle nous oriente vers un début de réponse, même si on ne peut pas avoir tout le pourquoi dans cette vie. Si on pense à la croix, on sait, dans l'épreuve, dans la souffrance, on sait au moins ce que la réponse n'est pas. Quand on demande pourquoi cela m'arrive, on peut savoir déjà ce que la réponse n'est pas. La réponse n'est pas parce que Dieu est contre moi, ou parce que Dieu m'oublie, ou parce que Dieu est lointain, ou parce que Dieu m'aime pas, ou parce que Dieu s'en fiche de ce que je vis. Ça, on ne pourrait jamais dire ça si on pense à la croix. Parce que la croix dit qu'au contraire, Dieu n'est pas lointain, Dieu aime. Et c'est ça qu'il faut. Le christianisme, c'est la seule croyance qui dit que dans un monde de souffrance, Dieu est venu lui-même souffrir. Dans un monde de souffrance, Dieu n'est pas resté lointain, mais il a fait quelque chose, il est venu souffrir. Et à partir de là, on ne peut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Sinon, il ne serait jamais venu pour souffrir avec nous, pour souffrir pour nous. Et c'est le philosophe français Albert Camus qui a compris cela. Donc, je vais vous lire ce qu'il a dit. C'est un langage assez philosophique, mais c'est très intéressant. Et il parle de la croix un peu. Il dit « Le Dieu-homme souffre aussi, avec patience. » Il dit « Dès lors, ni le mal, ni la mort ne lui sont plus absolument imputables, puisqu'il est déchiré et meurt. La nuit du Golgotha est si importante dans l'histoire des hommes parce que dans ces ténèbres, la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. On s'explique ainsi le lama sabachthani et le doute affreux du Christ à l'agonie. » Voyez ce qu'il dit. Il dit, on ne peut plus reprocher Dieu d'être lointain. On ne peut plus reprocher à Dieu d'être se détacher des souffrances du monde parce que lui-même il en a été déchiré, lui-même il en a goûté, notamment à la croix. Donc voilà, la croix est là pour qu'on soit au moins rassuré de ça. Je peux aller un peu plus loin et dire la croix. On sait ce que la réponse n'est pas, et on a aussi un début de réponse quand on pense à Christ. Dans cet événement que les prophètes ont annoncé, notamment les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies, et ce que nous avons célébré, commémoré encore ce matin par la scène, quand on pense à ça, ne sommes-nous pas convaincus que les souffrances de Christ n'étaient pas en vain? Ne sommes-nous pas convaincus que les souffrances de Christ, ce n'était pas du gaspillage. Ne sommes-nous pas convaincus finalement que les souffrances de Christ étaient utiles et étaient bienfaisantes? C'est-à-dire qu'elles aient produit du bien, qu'elles aient produit le salut du monde notamment, qu'elles aient produit des résultats merveilleux, glorieux. Et c'est ça qui est fort, la croix nous dessine un schéma, comme il dit ici, la souffrance suivie de la gloire. La souffrance suivie de la louange, l'honneur, la gloire. Et ça c'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de l'évangile. Il y avait la mort suivie par la résurrection. Il y avait l'épreuve suivie, qui en son épreuve à lui a produit la gloire, la louange et l'honneur. Et nous, nous suivons ces traces, c'est ce que dit le verset, nous suivons ces traces, et tout comme les souffrances de Christ qui ont apporté vie et beauté et gloire et bénédiction aux autres, bien, de la même manière, nos épreuves, si nous les vivons avec Christ, elles deviennent des sources de bénédiction, de vie, de salut pour les autres. La croix a eu pour résultat gloire, louange et honneur. Et de la même manière, il dit, nos épreuves, comme l'or périssable qui est cependant éprouvé par le feu, auront aussi pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Et ça, c'est le schéma de la croix, c'est le modèle de la croix que la croix nous enseigne. Christ est passé par là, ses souffrances n'étaient pas du gaspillage, elles avaient un but. Elles avaient un but et ce but était même noble et glorieux et merveilleux. Et si on s'attache à ça, si on les vit dans cette perspective-là, on pense à la croix, oui, on découvre que nos souffrances aussi ont un but, ont une utilité. Et ça, c'est la marque de notre Dieu, c'est la spécialité de notre Dieu. Il arrive à faire jaillir la vie de la mort. Il arrive à faire sortir quelque chose de beau de quelque chose de moche. Il arrive à sortir quelque chose de merveilleux de quelque chose de douloureux. Ça, c'est la croix. Vous en êtes convaincus vous-même. Et notre cœur, je pense, aimerait tant croire que la réalité est ainsi, que le mal autour de nous, finalement, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas du gaspillage, mais il peut y avoir un bien qui sort, et c'est la croix qui le prouve, la croix et la résurrection qui le prouvent. Donc, oui, nos souffrances, nos épreuves ont un but, ont une fin, et le pourquoi, même si on n'a pas tout, on a un début du pourquoi que finalement, ils sont en train de produire quelque chose de bien, de merveilleux. Et enfin, la croix aussi nous apprend que les souffrances auront une fin. Ils ont une fin, un but, et ils auront une fin, c'est-à-dire un jour, ils vont s'arrêter, un jour, ils prendront fin, ils cesseront. Et ça aussi, c'est très fort dans ce que l'Évangile nous apprend. Parce qu'il dit là, ici, c'est là ce qui fait votre joie, ce salut futur, tout ça, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Pierre, il est convaincu que les épreuves sont limitées dans le temps. C'est pour un peu de temps. Et déjà ici, il envisage un salut futur, il envisage ce héritage futur réservé dans les cieux, qui est, voilà, il n'y a pas de corruption, pas de souillure, pas de flétrissement, comme il dit dans le verset 4. Et il dit, c'est ça la destinée des chrétiens, un monde un jour sans souffrance, sans épreuve. Et tout au long de ce chapitre, il rappelle justement que maintenant, ici-bas, on est juste en état de pèlerinage, on est des exilés, on attend d'être rapatriés vers notre vraie demeure. Et finalement, les souffrances et les épreuves nous rappellent cette vérité. Elles sont utiles pour nous rappeler que finalement, ce monde n'est pas notre demeure, n'est pas notre destination finale. On a été fait pour un autre monde où, effectivement, il n'y a pas des souffrances. Et ça, c'est très fort dans le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile gère ça, gère les souffrances et envisage un jour qu'ils ne seront plus. Mais, par exemple, vous regardez d'autres religions, les autres religions gèrent les souffrances et les douleurs autrement. Et finalement, le mieux qu'ils peuvent faire, c'est dire, voilà, ils sont là, il faut vivre avec. Et voilà. Vous prenez certaines religions, la douleur et la souffrance sont même souhaitables, nobles, sont méritoires. Hein, donc il y a toutes ces pratiques de pénitence ou d'autoflagellation, tout ça, parce que quelque part dans la pensée, la souffrance est bien pour purifier, sanctifier. Donc quelque part on les recherche pas, on élève ceux qui souffrent beaucoup, tout ça. Dans d'autres religions, la douleur et la souffrance ne sont que illusions. Alors chez eux, il suffit de déconnecter son esprit et de son corps et planer au-dessus, et c'est ainsi qu'ils envisagent les souffrances. Souvent il y a l'idée que le corps est mauvais, la matière est mauvaise, et l'esprit c'est là où tout se passe. Donc ce qui arrive au corps, ben, c'est méprisable, mais il faut juste arriver à planer au-dessus. Il faut juste être zen, il faut ne plus rien sentir, et comme ça on arrive. Dans d'autres philosophies, la douleur, la souffrance, eh bien, c'est une fatalité. C'est là, même c'est utile, c'est nécessaire, je pense à l'évolution. Finalement, la souffrance, c'est un mécanisme normal dans le cycle de la vie, il en faut. Et il n'y a rien dans l'évolution qui envisage une fin de la souffrance. C'est-à-dire que le cycle va continuer comme ça. C'est la survie des plus forts, et pour que la survie des plus forts marche, il faut que les forts écrasent les faibles. Donc la souffrance serait un mécanisme sans fin. Donc ça, c'est intéressant. Des autres religions, c'est la souffrance est souhaitable, la souffrance n'est qu'illusion, ou la souffrance est un élément nécessaire, utile dans la vie. Mais la Bible n'accepte aucune de ces visions. La bonne nouvelle de l'Évangile dit que la souffrance dans ce monde est un intrus, est un étranger, est un mal. La souffrance, dit la Bible, est la conséquence du péché de l'homme, de sa rébellion, et finalement n'est pas bienvenue dans la création de Dieu. Et tellement c'était un problème, tellement c'était un intrus dans la belle création de Dieu, que Dieu, il est venu exprès pour la gérer, pour l'éradiquer, pour la combattre, pour mettre fin à la souffrance. Et tellement il a aimé sa créature, tellement il la voyait menacée par les conséquences du péché, par la souffrance, qu'il est venu, il a fait le nécessaire pour l'éradiquer, mais cela l'a coûté le prix infini de son fils. Il est venu pour mourir, pour mettre fin à la mort. Il est venu souffrir pour mettre fin à la souffrance. Quelque part, tout ce poison qui empoisonne notre monde, qui crée tant de souffrances, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a bu. Il a bu jusqu'à la fin, jusqu'à il n'en a plus, et c'est ça qu'il a achevé, c'est ça qu'il a tué à la croix. Mais il a tout pris, il a tout bu, jusqu'à ce qu'il n'en a plus. Toute la souffrance des pires, ensemble réunis, se sont déversés en quelque sorte sur lui, dans son cœur, sur la croix. Mais finalement, il a tout épuisé. Il n'en a plus, et c'est pour ça qu'il ressuscite. Et il ressuscite parce qu'il a épuisé les conséquences du péché, et il a épuisé la mort, et il ressuscite. Et c'est pour ça qu'il peut dire, Pierre, ici, verset 3, nous ne l'avons pas lu ce matin, mais il dit, voilà, Dieu, le Père, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cette résurrection prouve en quelque sorte que la fin des souffrances est envisageable, et que nous avons une espérance qui est vivante, c'est-à-dire qui peut nous nourrir, nous ranimer jour après jour, qu'un jour, il y aura un monde sans souffrance, sans péché. Alors vous allez me dire, mais si ça c'est le but, un monde, si on était fait pour un tel monde, pourquoi ne pas avoir fait un monde comme ça depuis le début? Pourquoi un monde sans la souffrance depuis le début, si c'est notre destinée de toute manière? Ben encore, il me semble, la croix nous répond à ça. Il dit il parle dans ce verset des souffrances de Christ et la gloire dont elle se serait suivie.
il y avait des souffrances suivies de gloire. Et nous croyons en tant que chrétiens, nous sommes convaincus que cette gloire est d'autant plus grande, cette gloire est d'autant plus belle, cette gloire est d'autant plus glorieuse à cause des souffrances de Christ. Pas en dépit des souffrances, mais à cause des souffrances de Christ. C'est-à-dire, nous sommes convaincus que Jésus, il est plus beau à nos yeux avec les marques dans ses mains que sans les marques dans ses mains. Et finalement, ces souffrances le rend encore plus beau. C'est curieux de penser pourquoi il a les marques sur ses mains d'ailleurs. Dieu aurait pu refaire un pot à neuf, j'imagine que. Voilà, il avait des blessures, des meurtrissures partout. Et le voilà dans un corps nouveau, ses disciples le voient. Mais il a ses marques sur ses mains, sur son côté. Pourquoi le rappel de ces marques? Si vous avez une cicatrice suite à une opération, suite à un cancer, cette cicatrice pourrait vous rappeler beaucoup de mauvais souvenirs chaque fois que vous voyez. Même nous, parfois, quand on parle de manière imagée, on dit, ouais, telle personne a vécu quelque chose de terrible, de difficile, elle est en début de rétablissement, mais il y a encore les cicatrices, il y a encore les séquelles. Les marques là sur Jésus, est-ce que c'est des séquelles? Est-ce que c'est des cicatrices? Est-ce que notre éternité sera remplie de mauvais souvenirs pour nuire à notre bonheur? Vous savez, parfois, on s'est rétabli d'une douleur, on a refait sa vie, mais quand elle revient en tête, elle peut nous replonger dans une tristesse. Est-ce que notre éternité sera ainsi quand on pense à tout ce monde, à tout ce que les gens ont vécu, à tout ce que nous-mêmes nous avons dû traverser? Et nous disons que non, encore grâce à la croix et la résurrection, mais nous croyons et nous sommes convaincus que notre bonheur, notre joie sera plus grande, plus riche, plus reposant d'avoir traversé les épreuves de cette vie que de ne pas les avoir traversées. Voilà encore ce que la croix apprend, parce que vous le voyez bien dans la croix. Et j'aime bien ce que Dostoïevski dit dans les Frères Karamazov. Et à un moment, le caractère principal, voilà ce qu'il dit, il constate ce monde plein de souffrances, mais il arrive à se raccrocher à une espérance, et c'est ainsi qu'il exprime, il dit, je crois, comme un enfant, que la souffrance sera guérie et restituée, que l'humiliante absurdité des contradictions humaines disparaîtra comme une image pitoyable. Je crois qu'à la fin du monde, au moment de l'harmonie éternelle, quelque chose de tellement précieux se produira qui sera suffisant pour tous les cœurs, pour le réconfort de tous les ressentiments, pour l'expiation de tous les crimes de l'humanité, pour tout le sang versé par les hommes. Je crois que cela rendra possible non seulement de pardonner, mais de justifier tout ce qui est arrivé. Je pense que ce serait juste des belles paroles quand on réfléchit à la réalité. Ça, c'est juste un roman, donc nous connaissons la réalité des souffrances. Ce serait juste des belles paroles, sauf quand on se met à la place des disciples de dimanche matin de la résurrection, quand ils ont vu Jésus-Christ vivant. Leur joie, vous le savez, leur joie ce dimanche matin était plus grande, était accrue. Leur joie était plus merveilleuse, plus douce à cause de ce qu'ils ont traversé vendredi soir. Et finalement, de le voir ressusciter comme ça, ça a permis de justifier, de dire finalement, oui, c'est merveilleux. C'est ainsi que l'Évangile nous fortifie et nous réjouit. Et il peut nous-mêmes dire là, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et il y a une joie merveilleuse et glorieuse qui vient, voilà, en suivant ce chemin de la croix, en méditant l'Évangile qui dit que, voilà, il y avait la souffrance suivie de gloire. Alors, voilà, avec tout ça, la Bible, effectivement, Pierre nous appelle à réagir autrement face aux épreuves, face aux souffrances. Est-ce qu'à partir de maintenant, nous, on va réussir à gérer parfaitement nos épreuves chaque fois que nous les traversons?
Est-ce que nous allons réagir parfaitement comme Job? Est-ce que nous allons réagir parfaitement comme Jésus-Christ? Je pense à un de ces prophètes qui a sondé l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ en lui, c'était Jérémie. Il a annoncé la venue de Jésus-Christ. Et une des prophéties qu'il a faites au sujet des circonstances de sa venue, la venue de Christ, c'est une prophétie que Matthieu reprend. C'est cette prophétie concernant Rachel. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée. Et ça, apparemment, c'était une prophétie concernant la naissance de Jésus-Christ, avec Hérode qui va massacrer tous les autres enfants pour éradiquer Jésus. Mais Jésus, il arrive à s'échapper en Égypte. Mais tous ses enfants massacrés, cette souffrance, cette épreuve. Et la prophétie annonce Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée. Et après, Jérémie continue à dire, mais il y aura une consolation. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée. Je pense qu'il y aura des fois où nos cœurs refusent d'être consolés. C'est-à-dire que notre foi, notre connaissance de Dieu et de l'Évangile de Jésus-Christ ne serait pas assez grande pour saisir tout cela et pour pouvoir réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse. Difficile de demander à Rachel, c'est-à-dire qui représente toutes les femmes juives, difficile à leur demander de se réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse avec ce qu'ils ont traversé. Et la Bible comprend même qu'il y a parfois un refus dans le cœur humain d'être consolé parce que on n'a pas assez de recul, pas assez de foi dans l'Évangile. Mais vous savez, voici encore la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette lacune aussi, ce refus d'être consolé, cette lacune, cette faiblesse, peut-être même un péché, quand Dieu veut nous donner la consolation et que le cœur refuse, eh bien, cette lacune, cette faiblesse, ce péché, s'il y en a, ben, ça aussi a été porté par Jésus-Christ à la croix. Cette faiblesse aussi participe à l'aspersion, à la purification du sang de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. De sorte qu'il peut dire en verset 5, « Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans ces derniers temps. » Pierre est convaincu que ces chrétiens qui traversent les épreuves, qui réagissent tantôt bien, tantôt moins bien aux épreuves, eh bien, ils sont néanmoins gardés, non par leur puissance, la puissance de leur foi, la puissance de la qualité de leur réaction à l'épreuve, mais ils sont gardés par la puissance de Dieu qui a fait tout le travail. Et il termine l'épître avec ces versets que je vous laisse. Chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, cette grâce manifestée dans l'Évangile, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Cette puissance-là, déclenchée dans l'Évangile, dans nos vies, va nous porter jusqu'à la fin. Il va nous affirmer, il va nous fortifier, il va nous rendre ébranlables par sa grâce. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous permette de continuer dans cette ligne de l'Évangile. Amen.